Chapitre 7. Le cabinet. Les hommes ont rarement le courage d'être tout à fait bons ou tout à fait méchants. Machiavel. Laissons notre jeune voyageur endormi. Bientôt, il va suivre en paix une grande et belle route. Puisque nous avons la liberté de promener nos yeux sur tous les points de la carte, arrêtons-les sur la ville de Narbonne. Voyez la Méditerranée qui étend, non loin de là, ses flots bleuâtres sur des rives sablonneuses. Pénétrez dans cette cité semblable à celle d'Athènes. Mais pour trouver celui qui y règne, suivez cette rue inégale et obscure, montez les degrés du vieux archevêché et entrons dans la première et la plus grande des salles. Elle était fort longue, mais éclairée par une suite de hautes fenêtres en ogive, dont la partie supérieure seulement avait conservé les vitraux bleus, jaunes et rouges, qui répandaient une lueur mystérieuse dans l'appartement. Une table ronde, énorme, la remplissait dans toute sa largeur, du côté de la grande cheminée. Autour de cette table, couverte d'un tapis bariolé et chargée de papiers et de portefeuilles, étaient assis et courbés sous leurs plumes 8 secrétaires occupés à copier des lettres qu'on leur passait d'une table plus petite. D'autres hommes, debout, rangeaient les papiers dans les rayons d'une bibliothèque que les livres reliés en noir ne remplissaient pas tout entière, et ils marchaient avec précaution sur le tapis dont la salle était garnie. Malgré cette quantité de personnes réunies, on eût entendu les ailes d'une mouche. Le seul bruit qui s'éleva était celui des plumes qui couraient rapidement sur le papier et une voix grêle qui dictait en s'interrompant pour tousser. Elle sortait d'un immense fauteuil à grands bras, placé au coin du feu, allumé en dépit des chaleurs de la saison et du pays. C'était un de ces fauteuils qu'on voit encore dans quelques vieux châteaux et qui semblent faits pour s'endormir en lisant, sur eux, quelques livres que ce soit, tant chaque compartiment est soigné. Un croissant de plumes y soutient les reins. Si la tête se penche, elle trouve ses joues reçues par des oreillers couverts de soie, et le coussin du siège déborde tellement les coudes qu'il est permis de croire que les prévoyants tapissiers de nos pères avaient pour but d'éviter que le livre ne fît du bruit et ne les réveillât en tombant. Mais quittons cette digression pour parler de l'homme qui s'y trouvait et qui n'y dormait pas. Il avait le front large et quelques cheveux fort blancs, des yeux grands et doux, une figure pâle et effilée, à laquelle une petite barbe blanche et pointue donnait cet air de finesse que l'on remarque dans tous les portraits du siècle de Louis XIII. Une bouche presque sans lèvres, et nous sommes forcés d'avouer que l'avatar regarde ce signe comme indiquant la méchanceté à n'en pouvoir douter. Une bouche pincée, disons-nous, était encadrée par 2 petites moustaches grises et par une royale, ornement alors à la mode, et qui ressemble assez à une virgule par sa forme. Ce vieillard avait sur la tête une calotte rouge et était enveloppé dans une vaste robe de chambre et portait des bas de soie pourprés et n'était rien moins qu'Armand Duplessis, cardinal de Richelieu. Il avait très près de lui, autour de la plus petite table dont il a été question, 4 jeunes gens de 15 à 20 ans. Ils étaient pages ou domestiques, selon l'expression du temps, qui signifiait alors « familier, ami de la maison ». Cet usage était un reste de patronage féodal demeuré dans nos mœurs. Les cadets gentilshommes des plus hautes familles recevaient des gages des grands seigneurs et leur étaient dévoués en toutes circonstances, allant appeler en duel le premier venu au moindre désir de leur patron. Les pages dont nous parlons rédigeaient des lettres dont le cardinal leur avait donné la substance. Et, après un coup d'œil du maître, il les passait au secrétaire, qui les mettait au net. Le cardinal-duc, de son côté, écrivait sur son genou des notes secrètes sur de petits papiers qu'il glissait dans presque tous les paquets avant de les fermer de sa propre main. Il y avait quelques instants qu'il écrivait, lorsqu'il aperçut, dans une glace placée en face de lui, le plus jeune de ses pages, traçant quelques lignes interrompues, sur une feuille d'une taille inférieure à celle du papier ministériel. Il se hâtait d'y mettre quelques mots, puis la glissait rapidement sous la grande feuille qu'il était chargé de remplir à son grand regret. Mais, placé derrière le cardinal, il espérait que sa difficulté à se retourner l'empêcherait de s'apercevoir du petit manège qu'il semblait exercer avec assez d'habitude. Tout à coup, Richelieu, lui adressant la parole sèchement, lui dit « Venez ici, monsieur Olivier !» Ces deux mots furent comme un coup de foudre pour ce pauvre enfant qui paraissait n'avoir que 16 ans. Il se leva pourtant très vite et vint se placer debout devant le ministre, les bras pendants et la tête baissée. Les autres pages et les secrétaires ne remuèrent pas plus que des soldats lorsque l'un d'eux tombe frappé d'une balle, tant ils étaient accoutumés à ces sortes d'appels. Celui-ci, pourtant, s'annonçait d'une manière plus vive que les autres. « Qu'écrivez-vous là ?»« Monseigneur, ce que votre éminence me dicte. »« Quoi ?»« Monseigneur, la lettre à Don Juan de Bragance. » »« Point de détour, monsieur, vous faites autre chose. » »« Monseigneur, dit alors le page, les larmes aux yeux, c'était un billet à une de mes cousines. » »« Voyons-le. » Alors un tremblement universel l'agita et il fut obligé de s'appuyer sur la cheminée en disant à demi-voix « C'est impossible !»« Monsieur le vicomte Olivier d'Entraigues, dit le ministre sans marquer la moindre émotion, « vous n'êtes plus à mon service. » Et le page sortit. Il savait qu'il n'y avait pas à répliquer. Il glissa son billet dans sa poche et, ouvrant la porte à deux battants, justement assez pour qu'il y eût place pour lui, il s'y glissa comme un oiseau qui s'échappe de sa cage. Le ministre continua les notes qu'il traçait sur son genou. Les secrétaires redoublaient de silence et d'ardeur lorsque, la porte s'ouvrant rapidement de chaque côté, on vit paraître debout, entre les deux battants, un capucin qui, s'inclinant les bras croisés sur la poitrine, semblait attendre l'aumône ou l'ordre de se retirer. Il avait un teint rembruni, profondément sillonné par la petite vérole, des yeux assez doux mais un peu louches et toujours couverts par des sourcils qui se joignaient au milieu du front. Une bouche dont le sourire était rusé, malfaisant et sinistre. Une barbe plate et rousse à l'extrémité et le costume de l'ordre de Saint-François dans toute son horreur, avec des sandales et des pieds nus qui paraissaient fort indignes de s'essuyer sur un tapis. Tel qu'il était, ce personnage parut faire une grande sensation dans toute la salle. Car sans achever la phrase, la ligne ou le mot commencé, chaque écrivain se leva et sortit par la porte où il se tenait toujours debout, les uns le saluant en passant, les autres détournant la tête, les jeunes pages se bouchant le nez, mais par derrière lui, car il paraissait en avoir peur en secret. Lorsque tout le monde eut défilé, il entra enfin, faisant une profonde révérence, parce que la porte était encore ouverte. Mais, sitôt qu'elle fut fermée, marchant sans cérémonie, il vint s'asseoir auprès du cardinal, qui, l'ayant reconnu au mouvement qui se faisait, lui fit une inclination de tête sèche et silencieuse, le regardant fixement comme pour attendre une nouvelle, et ne pouvant s'empêcher de froncer le sourcil, comme à l'aspect d'une araignée ou de quelque autre animal désagréable. Le cardinal n'avait pas pu résister à ce mouvement de déplaisir parce qu'il se sentait obligé, par la présence de son agent, à rentrer dans ces conversations profondes et pénibles dont il s'était reposé pendant quelques jours dans un pays dont l'air pur lui était favorable et dont le calme avait un peu ralenti les douleurs de sa maladie. Elle s'était changée en une fièvre lente, mais ces intervalles étaient assez longs pour qu'il pût oublier pendant son absence qu'elle devait revenir. Donnant donc un peu de repos à son imagination jusqu'alors infatigable, il attendait sans impatience, pour la première fois de ses jours peut-être, le retour des courriers qu'il avait fait partir dans toutes les directions, comme les rayons d'un soleil qui donnait seul la vie et le mouvement à la France. Il ne s'attendait pas à la visite qu'il recevait alors, et la vue d'un de ces hommes qu'il trempait dans le crime, selon sa propre expression, lui rendit toutes les inquiétudes habituelles de sa vie plus présentes, sans dissiper entièrement le nuage de mélancolie qui venait d'obscurcir ses pensées. Le commencement de sa conversation fut empreint de la couleur sombre de ses dernières rêveries. Mais bientôt, il en sortit plus vif et plus fort que jamais, quand la vigueur de son esprit rentra forcément dans le monde réel. Son confident, voyant qu'il devait rompre le silence le premier, le fit ainsi assez brusquement. « Eh bien, monseigneur, à quoi pensez-vous ? » « Hélas, Joseph, à quoi devons-nous penser tous tant que nous sommes, sinon à notre bonheur futur dans une vie meilleure que celle-ci ? Je songe, depuis plusieurs jours, que les intérêts humains m'ont trop détourné de cette unique pensée, et je me repens d'avoir employé quelques instants de loisir à des ouvrages profanes tels que mes tragédies d'Europe et de Mirante, malgré la gloire que j'en ai tirée déjà parmi nos plus beaux esprits, gloire qui se répandra dans l'avenir. » Le père Joseph, plein des choses qu'il avait à dire, fut d'abord surpris de ce début. Mais il connaissait trop son maître pour en rien témoigner, et sachant bien par où il le ramènerait à d'autres idées, il entra dans les siennes sans hésiter. « Le mérite en est pourtant bien grand, » dit-il avec un air de regret, « et la France gémira de ce que ses œuvres immortelles ne sont pas suivies de productions semblables. » « Oui, mon cher Joseph, c'est en vain que des hommes tels que Boisrobert, Claveret, Collelet, Corneille et surtout le célèbre Méret ont proclamé ces tragédies plus belles de toutes celles que les temps présents et passés ont vues représenter. Je me les reproche, je vous jure, comme un vrai péché mortel, et je ne m'occupe dans mes heures de repos que de ma méthode des controverses et du livre sur la perfection du chrétien. Je songe que j'ai 56 ans et une maladie qui ne pardonne guère. Ce sont des calculs que vos ennemis font aussi exactement que votre éminence, dit le père, à qui cette conversation commençait à donner de l'humeur et qui voulait en sortir au plus vite. Le rouge monta au visage du cardinal. Je le sais bien, dit-il. Je connais toute leur noirceur et je m'attends à tout. Mais qu'y a-t-il donc de nouveau ? Nous étions convenus déjà, monseigneur, de remplacer mademoiselle d'Hautefort. Nous l'avons éloignée comme mademoiselle de Lafayette, c'est fort bien, mais sa place n'est pas remplie et le roi... Eh bien, le roi a des idées qu'il n'avait pas eues encore. Vraiment ? Et qui ne viennent pas de moi ? Voilà qui va bien, dit le ministre avec ironie. Aussi, monseigneur, pourquoi laisser 6 jours entiers la place de favori vacante ? « Ce n'est pas prudent, permettez que je le dise. »« Il a des idées ?» répétait Richelieu avec une sorte d'effroi. « Et lesquelles ?»« Il a parlé de rappeler la reine-mère, » dit le Capucin à voix basse, « de la rappeler de Cologne. »« Marie de Médicis ?» s'écria le cardinal en frappant sur les bras de son fauteuil avec ses deux mains. « Non, par le Dieu vivant !» Elle ne rentrera pas sur le sol de France, d'où je l'ai chassée pied par pied. L'Angleterre n'a pas osé la garder, exilée par moi. La Hollande a craint de crouler sous elle, et mon royaume la recevrait. Non, non, cette idée n'a pu lui venir par lui-même. Rappeler mon ennemi, rappeler sa mère, quelle perfidie! Non, il n'aurait jamais osé y penser. Puis, après avoir rêvé un instant, il ajouta, en fixant un regard pénétrant et encore plein du feu de sa colère, sur le père Joseph. « Mais dans quels termes a-t-il exprimé ce désir ? Dites-moi les mots précis. » Il a dit, assez publiquement et en présence de monsieur, « Je sens bien que l'un des premiers devoirs d'un chrétien est d'être bon fils, et je ne résisterai pas longtemps aux murmures de ma conscience. » « Chrétien, conscience, ce ne sont pas ses expressions. C'est le père Caussin, c'est son confesseur qui me trahit, s'écria le cardinal. Perfide jésuite, je t'ai pardonné ton intrigue de Lafayette, mais je ne te passerai pas tes conseils secrets. Je ferai chasser ce confesseur, Joseph. Il est l'ennemi de l'État, je le vois bien. Mais aussi, j'ai agi avec négligence depuis quelques jours. Je n'ai pas assez hâté l'arrivée de ce petit défiat qui réussira sans doute. Il est bien fait et spirituel, dit-on. Ah, quelle faute ! Je méritais une bonne disgrâce moi-même. Laissez près du roi ce renard de jésuite, sans lui avoir donné mes instructions secrètes, sans avoir un otage, un gage de sa fidélité à mes ordres, quel oubli ! Joseph, prenez une plume et écrivez vite ceci pour l'autre confesseur que nous choisirons mieux. Je pense au père Sirmon. Le père Joseph se mit devant la grande table, prêt à écrire, et le cardinal lui dicta ses devoirs de nouvelle nature, que peu de temps après, il osa faire remettre au roi, qui les reçut, les respecta et les apprit par cœur comme les commandements de l'Église. Ils nous sont demeurés comme un monument effrayant de l'empire qu'un homme peut arracher à force de temps, d'intrigue et d'audace. 1. Un prince doit avoir un premier ministre, et ce premier ministre trois qualités. Premièrement, qu'il n'ait pas d'autre passion que son prince. Deuxièmement, qu'il soit habile et fidèle. Troisièmement, qu'il soit ecclésiastique. 2. Un prince doit parfaitement aimer son premier ministre. 3. Ne doit jamais changer son premier ministre. 4. Doit lui dire toute chose. 5. Lui donner libre accès auprès de sa personne. 6. Lui donner une souveraine autorité sur le peuple. 7. De grands honneurs et de grands biens. 8. Un prince n'a pas de plus riche trésor que son premier ministre. 9. Un prince ne doit pas ajouter foi à ce qu'on dit contre son premier ministre, ni se plaire à en entendre médire. 10. Un prince doit révéler à son premier ministre tout ce qu'on a dit contre lui, quand même on aurait exigé du prince qu'il garderait le secret. 11. Un prince doit non seulement préférer le bien de son État, mais son premier ministre à tous ses parents. Tels étaient les commandements du Dieu de la France, moins étonnants encore que la terrible naïveté qui lui fait léguer lui-même ses ordres à la postérité, comme si elle aussi devait croire en lui. Tandis qu'il dictait son instruction, en la lisant sur un petit papier écrit de sa main, une tristesse profonde paraissait s'emparer de lui à chaque mot. Et lorsqu'il fut au bout, il tomba au fond de son fauteuil, les bras croisés et la tête penchée sur son estomac. Le père Joseph, interrompant son écriture, se leva et allait lui demander s'il se trouvait mal, lorsqu'il entendit sortir du fond de sa poitrine ces paroles lugubres et mémorables. « Quel ennui profond ! Quelles interminables inquiétudes ! Si l'ambitieux me voyait, il fuirait dans un désert. Qu'est-ce que ma puissance ? Un misérable reflet du pouvoir royal ! Et que de travaux pour fixer sur mon étoile ce rayon qui flotte sans cesse ! Depuis 20 ans, je le tente inutilement. Je ne comprends rien à cet homme. Il n'ose pas me fuir, mais on me l'enlève. Il me glisse entre les doigts. Que de choses j'aurais pu faire avec ces droits héréditaires si je les avais eus. Mais employer tant de calculs à se tenir en équilibre. Que reste-t-il de génie pour les entreprises ? J'ai l'Europe dans ma main et je suis suspendu à un cheveu qui tremble. Qu'ai-je à faire de porter mes regards sur les cartes du monde si tous mes intérêts sont renfermés dans son étroit cabinet ? Ces 6 pieds d'espace me donnent plus de peine à gouverner que toute la terre. Voilà donc ce que c'est qu'un premier ministre. Enviez-moi mes gardes à présent. » Ses traits étaient décomposés de manière à faire craindre quelque accident, et il lui prit une toux violente et longue qui finit par un léger crachement de sang. Il vit que le père Joseph, effrayé, allait saisir une clochette d'or posée sur la table, et, se levant tout à coup avec la vivacité d'un jeune homme, il l'arrêta et lui dit « Ce n'est rien, Joseph. Je me laisse quelquefois aller au découragement. Mais ces moments sont courts et j'en sors plus fort qu'avant. Pour ma santé, je sais parfaitement où j'en suis. Mais il ne s'agit pas de cela. Qu'avez-vous fait à Paris ? Je suis content de voir le roi arriver dans le Béarn comme je le voulais. Nous le veillerons mieux. Que lui avez-vous montré pour le faire partir ? Une bataille à Perpignan. Allons, ce n'est pas mal. Eh bien, nous pouvons la lui arranger. Autant vaut cette occupation qu'une autre à présent. Mais la jeune reine, que dit-elle ? Elle est encore furieuse contre vous. Sa correspondance découverte, l'interrogatoire que vous lui fîtes subir. Bah ! Un madrigal et un moment de soumission lui feront oublier que je l'ai séparée de sa maison d'Autriche et du pays de son Buckingham. Mais que fait-elle ? D'autres intrigues avec monsieur. Mais comme toutes ses confidences sont à nous, en voici les rapports jour par jour. Je ne me donnerai pas la peine de les lire. Tant que le duc de Bouillon sera en Italie, je ne crains rien de là. Elle peut rêver de petites conjurations avec Gaston au coin du feu. Ils s'en tiennent toujours aux aimables intentions qu'il a quelquefois et n'exécute bien que ses sorties du royaume. Il en est à la troisième. Je lui procurerai la quatrième quand il voudra. Il ne vaut pas le coup de pistolet que tu fis donner au comte de Soissons. Ce pauvre comte n'avait cependant guère plus d'énergie. » Ici, le cardinal, se rasseyant dans son fauteuil, se mit à rire assez gaiement pour un homme d'État. « Ha, ha, ha ! Je rirai toute ma vie de leur expédition d'Amiens. Ha, ha, ha ! Ils me tenaient là tous les deux. Chacun avait bien 500 gentilshommes autour de lui, armés jusqu'aux dents, et tout prêts à m'expédier comme consigné. Mais le grand Vitry n'était plus là. Ils m'ont laissé parler une heure fort tranquillement avec eux de la chasse et de la fête Dieu, et ni l'un ni l'autre n'a osé faire un signe à tous ces coupes jarrées. Nous avons su depuis par Chavigny qu'ils attendaient depuis 2 mois cet heureux moment. Pour moi, en vérité, je ne remarquais rien du tout, si ce n'est ce petit brigand d'abbé de Gondy qui rôdait autour de moi et avait l'air de cacher quelque chose dans sa manche. Ce fut ce qui me fit monter en carrosse. À propos, monseigneur, la reine veut le faire coadjuteur absolument. Elle est folle. Il la perdra si elle s'y attache. C'est un mousquetaire manqué, un diable en soutane. Lisez son histoire de fiesque, vous l'y verrez lui-même. Il ne sera rien tant que je vivrai. Et quoi, vous jugez si bien et vous faites venir un autre ambitieux de son âge ? Quelle différence ! Ce sera une poupée, mon ami, une vraie poupée que ce jeune Saint-Marc. Il ne pensera qu'à sa fraise et à ses aiguillettes. Sa jolie tournure m'en répond, et je sais qu'il est doux et faible. Je l'ai préféré pour cela à son frère aîné. Il fera ce que nous voudrons. « Ah, monseigneur, dit le père d'un air de doute, je ne me suis jamais fié aux gens dont les formes sont si calmes, la flamme intérieure en est plus dangereuse. Souvenez-vous du maréchal Defiat, son père. Mais, encore une fois, c'est un enfant et je l'élèverai. Au lieu que le Gondy est déjà un factieux accompli, un audacieux que rien n'arrête. Il a osé me disputer Madame de la Meilleraie. Concevez-vous cela ? Est-ce croyable ? À moi ? Un petit prestolet qui n'a d'autre mérite qu'un mince babil assez vif et un air cavalier. Heureusement que le mari a pris soin lui-même de l'éloigner. » Le père Joseph, qui n'aimait pas mieux son maître lorsqu'il parlait de ses bonnes fortunes que de ses vers, fit une grimace qu'il voulait rendre fine et qui ne fut que laide et gauche. Il s'imagina que l'expression de sa bouche tordue comme celle d'un singe voulait dire « Ah, qui peut résister à Monseigneur ? Mais Monseigneur il eut, je suis un cuistre qui ne sait rien du grand monde. Et sans transition, il dit tout à coup, en prenant sur la table une lettre de dépêche. Le duc de Rohan est mort. C'est une bonne nouvelle. Voilà les Huguenots perdus. Il a eu bien du bonheur. Je l'avais fait condamner par le Parlement de Toulouse à être tiré à 4 chevaux, et il meurt tranquillement sur le champ de bataille de Renfield. Mais qu'importe, le résultat est le même. Voilà encore une grande tête par terre, comme elles sont tombées depuis celle de Montmorency. Je n'en vois plus guère qui ne s'incline devant moi. Nous avons déjà à peu près puni toutes nos dupes de Versailles. Certes, on n'a rien à me reprocher. J'exerce contre eux la loi du talion et je les traite comme ils ont voulu me faire traiter au conseil de la reine-mère. Le vieux radoteur de Bassompierre en sera quitte pour la prison perpétuelle, ainsi que l'assassin maréchal de Vitry, car il n'avait voté que cette peine pour moi. Quant au Marillac, qui conseilla la mort, je la lui réserve au premier faux pas et te recommande, Joseph, de me le rappeler. Il faut être juste avec tout le monde. Reste donc encore debout ce duc de Bouillon, à qui son Sedan donne de l'orgueil. Mais je le lui ferai bien rendre. C'est une chose merveilleuse que leur aveuglement. Ils se croient tous libres de conspirer et ne voient pas qu'ils ne font que voltiger au bout des fils que je tiens d'une main et que j'allonge quelquefois pour leur donner de l'air et de l'espace. Et pour la mort de leur cher duc, les Huguenots ont-ils bien crié comme un seul homme ? Moins que pour l'affaire de Loudun, qui s'est pourtant terminée heureusement. Quoi, heureusement ? J'espère que Grandier est mort ? Oui, c'est ce que je voulais dire. Votre éminence doit être satisfaite. Tout a été fini dans les 24 heures, on n'y pense plus. Seulement, Laubardemont a fait une petite étourderie qui était de rendre la séance publique. C'est ce qui a causé un peu de tumulte. Mais nous avons les signalements des perturbateurs que l'on suit. C'est bien, c'est très bien. Urbain était un homme trop supérieur pour le laisser là. Il tournait au protestantisme. Je parierais qu'il aurait fini par abjurer. Son ouvrage contre le célibat des prêtres me l'a fait conjecturer. Et dans le doute, retiens ceci, Joseph. Il vaut toujours mieux couper l'arbre avant que le fruit soit poussé. Ces Huguenots, vois-tu, sont une vraie république dans l'État. Si une fois ils avaient la majorité en France, la monarchie serait perdue. Ils établiraient quelques gouvernements populaires qui pourraient être durables. Et quelle peine profonde ils causent tous les jours à notre Saint-Père le Pape, dit Joseph. Ah, interrompit le cardinal, je te vois venir. Tu veux me rappeler son entêtement à ne pas te donner le chapeau. Sois tranquille, j'en parlerai aujourd'hui au nouvel ambassadeur que nous envoyons. Le maréchal d'Étrée obtiendra en arrivant ce qui traîne depuis 2 ans que nous t'avons nommé au cardinalat. Je commence aussi à trouver que la pourpre tirait bien, car les taches de sang ne s'y voient pas. Et tous deux se mirent à rire. L'un comme un maître qui accable de tout son mépris le sicaire qu'il paie, l'autre comme un esclave résigné à toutes les humiliations par lesquelles on s'élève. Le rire qu'avait excité la sanglante plaisanterie du vieux ministre durait encore lorsque la porte du cabinet s'ouvrit et un page annonça plusieurs courriers qui arrivaient à la fois de divers points. Le père Joseph se leva et, se plaçant debout, le dos appuyé contre le mur comme une momie égyptienne, ne laissa plus paraître sur son visage qu'une stupide contemplation. 12 messagers entrèrent successivement, revêtus de déguisements divers. L'un semblait un soldat suisse, un autre un vivandier, un troisième un maître maçon. On les faisait entrer dans le palais par un escalier et un corridor secret, et ils sortaient du cabinet par une porte opposée à celle qui les introduisait, sans pouvoir se rencontrer ni se communiquer rien de leur dépêche. Chacun d'eux déposait un paquet de papier roulé ou plié sur la grande table, parlait un instant au cardinal dans l'embrasure d'une croisée et partait. Richelieu s'était levé brusquement dès l'entrée du premier messager et, attentif à tout faire par lui-même, il les reçut tous, les écouta et referma de sa main sur eux la porte de sortie. Il fit signe au père Joseph quand le dernier fut parti et, sans parler, tous deux ouvrirent, ou plutôt arrachèrent les paquets des dépêches et se dirent en deux mots le sujet des lettres. Le duc de Weimar poursuit ses avantages. Le duc Charles est battu. L'esprit de notre général est assez bon. Voici de bons propos qu'il a tenus à dîner. Je suis content. Monsieur, le vicomte de Turenne a repris les places de Lorraine. Voici ses conversations particulières. Ah, passez, passez cela. Elles ne peuvent pas être dangereuses. Ce sera toujours un bon et honnête homme, ne se mêlant point de politique. Pourvu qu'on lui donne une petite armée à disposer comme une partie d'échecs, n'importe contre qui, il est content. Nous serons toujours bons amis. Voici le long parlement qui dure encore en Angleterre. Les communes poursuivent leurs projets. Voici des massacres en Irlande. Le comte de Strafford est condamné à mort. À mort ? Quelle horreur ! Je lis. Sa Majesté Charles Ier n'a pas eu le courage de signer l'arrêt, mais il a désigné 4 commissaires. Roi faible, je t'abandonne. Tu n'auras plus notre argent. Tombe, puisque tu es ingrat. Ô malheureux Wentworth ! Et une larme parut aux yeux de Richelieu. Ce même homme, qui venait de jouer avec la vie de tant d'autres, pleura un ministre abandonné de son prince. Le rapport de cette situation à la sienne l'avait frappé, et c'était lui-même qu'il pleurait dans cet étranger. Il cessa de lire à haute voix les dépêches qu'il ouvrait, et son confident l'imita. Il parcourut avec une scrupuleuse attention tous les rapports détaillés des actions les plus minutieuses et les plus secrètes de tout personnage un peu important. Rapports qu'il faisait toujours joindre à ses nouvelles par ses habiles espions. On attachait ces rapports secrets aux dépêches du roi, qui devaient toutes passer par les mains du cardinal et être soigneusement repliées pour arriver au prince épurées et telles qu'on voulait les lui faire lire. Les notes particulières furent toutes brûlées avec soin par le père quand le cardinal en eut pris connaissance. Et celui-ci, cependant, ne paraissait point satisfait. Il se promenait fort vite de long en large dans l'appartement avec des gestes d'inquiétude, lorsque la porte s'ouvrit et un 13e courrier entra. Ce nouveau messager avait l'air d'un enfant de 14 ans à peine. Il tenait sous le bras un paquet cacheté de noir pour le roi et ne donna au cardinal qu'un petit billet sur lequel un regard dérobé de Joseph ne put entrevoir que 4 mots. Le duc tressaillit, le déchira en 1000 pièces et, se courbant à l'oreille de l'enfant, lui parla assez longtemps sans réponse. Tout ce que Joseph entendit fut, lorsque le cardinal le fit sortir de la salle, « Fais-y bien attention, pas avant 12 heures d'ici. » Pendant cet aparté du cardinal, Joseph s'était occupé à soustraire de sa vue un nombre infini de libelles qui venaient de Flandre et d'Allemagne et que le ministre voulait voir, quelque amer qu'ils fussent pour lui. Il affectait à cet égard une philosophie qu'il était loin d'avoir et, pour faire illusion à ceux qui l'entouraient, il feignait quelquefois de trouver que ses ennemis n'avaient pas tout à fait tort et de rire de leurs plaisanteries. Cependant, ceux qui avaient une connaissance plus approfondie de son caractère démêlaient une rage profonde sous cette apparente modération et savaient qu'il n'était satisfait que lorsqu'il avait fait condamner par le Parlement le livre ennemi à être brûlé en place de grève, comme injurieux au roi, en la personne de son ministre, l'illustrissime cardinal, comme on le voit dans les arrêts du temps, et que son seul regret était que l'auteur ne fût pas à la place de l'ouvrage. Satisfaction qu'il se donnait quand il le pouvait, comme il le fit pour Urbain Grandier. C'était son orgueil colossal qu'il vengeait ainsi sans se l'avouer à lui-même et travaillant longtemps, 1 an quelquefois, à se persuader que l'intérêt de l'État y était engagé. ingénieux à rattacher ses affaires particulières à celles de la France, il s'était convaincu lui-même qu'elle saignait des blessures qu'il recevait. Joseph, très attentif à ne pas provoquer sa mauvaise humeur dans ce moment, mit à part et déroba un livre intitulé « Mystères politiques du cardinal de La Rochelle ». Un autre, attribué à un moine de Munich, dont le titre était « Questions colibétiques ajustées au temps présent et impiétés sanglantes du dieu Mars ». L'honnête avocat Aubéry, qui nous a transmis une des plus fidèles histoires de l'éminentissime cardinal, est transporté de fureur au seul titre du premier de ses livres et s'écrie que le grand ministre eut bien sujet de se glorifier que ses ennemis, inspirés contre leur gré du même enthousiasme qui a fait rendre des oracles à l'ânesse de Balaam, à Caïphe et autres, qui semblaient plus indignes du don de la prophétie, l'appelaient à bon titre cardinal de La Rochelle, puisqu'il avait, 3 ans après leurs écrits, réduit cette ville. De même que Scipion a été nommé l'Africain pour avoir subjugué cette province. Peu s'en fallut que le père Joseph, qui était nécessairement dans les mêmes idées, n'exprima dans les mêmes termes son indignation. Car il se rappelait avec douleur la part de ridicule qu'il avait prise dans le siège de La Rochelle, qui, tout en n'étant pas une province comme l'Afrique, s'était permis de résister à l'éminentissime cardinal, quoique le père Joseph eût voulu faire passer les troupes par un égout, se piquant d'être assez habile dans l'art des sièges. Cependant, il se contint et eut encore le temps de cacher le libelle moqueur dans la poche de sa robe brune avant que le ministre eût congédié son jeune courrier et fût revenu de la porte à la table. « Le départ, Joseph, le départ !» dit-il. « Ouvre les portes à toute cette cour qui m'assiège et allons trouver le roi qui m'attend à Perpignan. Je le tiens cette fois pour toujours. » Le capucin se retira et bientôt les pages, ouvrant les doubles portes dorées, annoncèrent successivement les plus grands seigneurs de cette époque qui avaient obtenu du roi la permission de le quitter pour venir saluer le ministre. Quelques-uns même, sous prétexte de maladie ou d'affaires de service, étaient partis à la dérobée pour ne pas être les derniers dans son antichambre, et le triste monarque s'était trouvé presque tout seul, comme les autres rois ne se voient d'ordinaire qu'à leur lit de mort. Mais il semblait que le trône fût sa couche funèbre aux yeux de la cour, son règne une continuelle agonie, et son ministre un successeur menaçant. Deux pages des meilleures maisons de France se tenaient près de la porte où des huissiers annonçaient chaque personnage qui, dans le salon précédent, avait trouvé le père Joseph. Le cardinal, toujours assis dans son grand fauteuil, restait immobile pour le commun des courtisans, faisait une inclination de tête aux plus distingués et, pour les princes seulement, cédait de ses deux bras pour se soulever légèrement. Chaque courtisan allait le saluer profondément et, se tenant debout devant lui près de la cheminée, attendait qu'il lui adressât la parole. Ensuite, selon le signe du cardinal, il continuait à faire le tour du salon pour sortir par la même porte par où l'on entrait, restait un moment à saluer le père Joseph, qui singeait son maître et que l'on avait pour cela nommé l'éminence grise, et sortait enfin du palais, ou bien se rangeait debout derrière son fauteuil, si le ministre l'y engageait, ce qui était une marque de la plus grande faveur. Il laissa passer d'abord quelques personnages insignifiants et beaucoup de mérites inutiles, et n'arrêta cette procession qu'au maréchal des Traits, qui, partant pour l'ambassade de Rome, venait lui faire ses adieux. Tout ce qui suivait cessa d'avancer. Ce mouvement avertit dans le salon précédent qu'une conversation plus longue s'engageait, et le père Joseph, paraissant, échangea avec le cardinal un regard qui voulait dire, d'une part, « Souvenez-vous de la promesse que vous venez de me faire. » De l'autre, « Soyez tranquille. » En même temps, l'adroit capucin fit voir à son maître qu'il tenait sous le bras une de ses victimes qu'il préparait à être un docile instrument. C'était un jeune gentilhomme qui portait un manteau vert très court et une veste de même couleur, un pantalon rouge fort serré, avec de brillantes jarretières d'or dessous, habit des pages de monsieur. Le père Joseph lui parlait bien en secret, mais point dans le sens de son maître. Il ne pensait qu'à être cardinal et se préparer d'autres intelligences en cas de défection de la part du premier ministre. « Dites à monsieur qu'il ne se fie pas aux apparences et qu'il n'a pas de plus fidèle serviteur que moi. Le cardinal commence à baisser et je crois de ma conscience d'avertir de ses fautes celui qui pourrait hériter du pouvoir royal pendant la minorité. Pour donner à votre grand prince une preuve de ma bonne foi, dites-lui qu'on veut faire arrêter Puy Lorenz, qui est à lui, qu'il le fasse cacher, ou bien le cardinal le mettra aussi à la Bastille. » Tandis que le serviteur trahissait ainsi son maître, le maître ne restait pas en arrière et trahissait le serviteur. Son amour-propre et un reste de respect pour les choses de l'Église le faisaient souffrir à l'idée de voir le méprisable agent couvert du même chapeau, qui était une couronne pour lui, et assis aussi haut que lui-même, à cela près de l'emploi passager de ministre. Parlant donc à demi-voix au maréchal d'Étrée, « Il n'est pas nécessaire, lui dit-il, de persécuter plus longtemps Urbain VIII en faveur de ce capucin que vous voyez là-bas. C'est bien assez que Sa Majesté ait daigné le nommer au cardinalat. Nous concevons les répugnances de sa sainteté à couvrir ce mendiant de la pourpre romaine. » Puis, passant de cette idée aux choses générales, « Je ne sais vraiment pas ce qui peut refroidir Saint-Père à notre égard. Qu'avons-nous fait qui ne fût pour la gloire de notre Sainte Mère l'Église catholique? J'ai dit moi-même la première messe à La Rochelle, et vous le voyez par vos yeux, monsieur le maréchal, notre habit est partout et même dans vos armées. Le cardinal de la Valette vient de commander glorieusement dans le Palatinat et vient de faire une très belle retraite, » dit le maréchal, appuyant légèrement sur le mot « retraite ». Le ministre continua, sans faire attention à ce petit mot de jalousie de métier, et en élevant la voix. « Dieu a montré qu'il ne dédaignait pas d'envoyer l'esprit de victoire à ses lévites, car le duc de Weimar n'aida pas plus puissamment à la conquête de la Lorraine que ce pieux cardinal, et jamais une armée navale ne fut mieux commandée que par notre archevêque de Bordeaux à La Rochelle. » On savait que dans ce moment, le ministre était assez aigri contre ce prélat, dont la hauteur était telle et les impertinences si fréquentes qu'il avait eu deux affaires assez désagréables dans Bordeaux. Il y avait 4 ans, le duc d'Épernon, alors gouverneur de la Guyenne, suivi de tous ses gentilshommes et de ses troupes, le rencontrant au milieu de son clergé dans une procession, l'appela insolent et lui donna 2 coups de canne très vigoureux, sur quoi l'archevêque l'excommunia. Et tout récemment encore, malgré cette leçon, il avait eu une querelle avec le maréchal de Vitry, dont il avait reçu 20 coups de canne ou de bâton, comme il vous plaira, écrivait le cardinal-duc au cardinal de la Valette, et je crois qu'il veut remplir la France d'excommuniés. En effet, il excommunia encore le bâton du maréchal, se souvenant qu'autrefois, le pape avait forcé le duc d'Épernon à lui demander pardon. Mais Vitry, qui avait fait assassiner le maréchal d'Ancre, était trop bien en cour pour cela, et l'archevêque fut battu et, de plus, grondé par le ministre. Monsieur d'Étrée pensa donc avec assez de tact qu'il pouvait y avoir un peu d'ironie dans la manière dont le cardinal vantait les talents guerriers et maritimes de l'archevêque et lui répondit avec un sang-froid inaltérable. « En effet, monseigneur, personne ne peut dire que ce soit sur mer qu'il ait été battu. » Son éminence ne put s'empêcher de sourire, mais voyant que l'impression électrique de ce sourire en avait fait naître d'autres dans la salle, et des chuchotements et des conjectures, il reprit toute sa gravité sur le champ et prenant le bras familièrement au maréchal. « Allons, allons, monsieur l'ambassadeur, dit-il, vous avez la répartie bonne. Avec vous, je ne craindrai pas le cardinal Albornoz, ni tous les Borgia du monde, ni tous les efforts de leur Espagne près du Saint-Père. » Puis, élevant la voix et regardant tout autour de lui, comme pour s'adresser au salon silencieux et captivé. « J'espère, continua-t-il, qu'on ne nous persécutera plus comme l'on fit autrefois pour avoir fait une juste alliance avec l'un des plus grands hommes de nos temps. Mais Gustave Adolphe est mort, le roi catholique n'aura plus de prétexte pour solliciter l'excommunication du roi très chrétien. N'êtes-vous pas de mon avis, mon cher seigneur ? Dit-il en s'adressant au cardinal de la Valette qui s'approchait et n'avait heureusement rien entendu sur son compte. « Monsieur Destrées, restez près de notre fauteuil. Nous avons encore bien des choses à vous dire et vous n'êtes pas de trop dans toutes nos conversations car nous n'avons point de secrets. Notre politique est franche et au grand jour. L'intérêt de Sa Majesté et de l'État, voilà tout. » Le maréchal fit un profond salut, se rangea derrière le siège du ministre et laissa sa place au cardinal de la Valette qui, ne cessant de se prosterner et de flatter et de jurer dévouement et toute obéissance au cardinal comme pour expier la roideur de son père, le duc d'Épernon, n'eut aussi de lui que quelques mots vagues et une conversation distraite et sans intérêt pendant laquelle il ne cessa de regarder à la porte quelle personne lui succédait. Il eut même le chagrin de se voir interrompu brusquement par le cardinal-duc, qui s'écria, au moment le plus flatteur de son discours mielleux. « Ah, c'est donc vous enfin, mon cher Faber, qu'il me tardait de vous voir pour vous parler du siège !» Le général salua d'un air brusque et assez gauchement le cardinal généralissime et lui présenta les officiers venus du camp avec lui. Il parla quelque temps des opérations du siège et le cardinal semblait lui faire en quelque sorte la cour pour le préparer à recevoir plus tard ses ordres sur le champ de bataille même. Il parla aux officiers qui le suivaient, les appelant par leur nom et leur faisant des questions sur le camp. Ils se rangèrent tous pour laisser approcher le duc d'Angoulême. Ce Valois, après avoir lutté contre Henri IV, se prosternait devant Richelieu. Il sollicitait un commandement qu'il n'avait eu qu'en troisième au siège de La Rochelle. À sa suite parut le jeune Mazarin, toujours souple et insinuant, mais déjà confiant dans sa fortune. Le duc d'Aluin vint après eux. Le cardinal interrompit les compliments qu'il leur adressait pour dire à haute voix « Monsieur le duc, je vous annonce avec plaisir que le roi a créé en votre faveur un office de maréchal de France. Vous signerez Schomberg, n'est-il pas vrai? À Leucat, délivré par vous, on le pense ainsi. Mais pardon, voici M. de Montauron qui a sans doute quelque chose d'important à me dire. Oh mon Dieu, non, monseigneur! Je voulais seulement vous dire que ce pauvre jeune homme que vous avez daigné regarder comme à votre service meurt de faim. Ah, comment, dans ce moment-ci, me parlez-vous de choses semblables? Votre petit Corneille ne veut rien faire de bon. Nous n'avons vu que le Cid et les Horaces, encore. Qu'il travaille, qu'il travaille! On sait qu'il est à moi, c'est désagréable pour moi-même. Cependant, puisque vous vous y intéressez, je lui ferai une pension de 500 écus sur ma cassette. » Et le trésorier de l'épargne se retira, charmé de la libéralité du ministre, et fut chez lui recevoir, avec assez de bonté, la dédicace de Cinna, où le grand Corneille compare son âme à celle d'Auguste et le remercie d'avoir fait l'aumône à quelques muses. Le cardinal, troublé par cette importunité, se leva en disant que la matinée s'avançait et qu'il était temps de partir pour aller trouver le roi. En cet instant même, et comme les plus grands seigneurs s'approchaient pour l'aider à marcher, un homme en robe de maître des requêtes s'avança vers lui en saluant avec un sourire avantageux et confiant qui étonna tous les gens habitués au grand monde. Il semblait dire « Nous avons des affaires secrètes ensemble. Vous allez voir comme il sera bien pour moi. Je suis chez moi dans son cabinet. » Sa manière lourde et gauche trahissait pourtant un être très inférieur. C'était Laubardemont. Richelieu fronça le sourcil en le voyant en face de lui et lança un regard de feu à Joseph. Puis, se tournant vers ceux qui l'entouraient, il dit avec un rire amer. Est-ce qu'il y a quelque criminel autour de nous ?» Puis, lui tournant le dos, le cardinal le laissa plus rouge que sa robe. Et, précédé de la foule des personnages qui devaient l'escorter en voiture ou à cheval, il descendit le grand escalier de l'archevêché. Tout le peuple de Narbonne et ses autorités regardèrent avec stupéfaction ce départ royal. Le cardinal seul entra dans une ample et spacieuse litière de forme carrée, dans laquelle il devait voyager jusqu'à Perpignan, ses infirmités ne lui permettant ni d'aller en voiture, ni de faire toute cette route à cheval. Cette sorte de chambre nomade renfermait un lit, une table et une petite chaise pour un page qui devait écrire ou lui faire la lecture. Cette machine, couverte de damas couleur de pourpre, fut portée par 18 hommes qui, de lieu en lieu, se relevaient. Ils étaient choisis dans ses gardes et ne faisaient ce service d'honneur que la tête nue, quelle que fût la chaleur ou la pluie. Le duc d'Angoulême, les maréchaux de Schomberg et d'Aytré, Fabert et d'autres dignitaires étaient à cheval aux portières. On distinguait le cardinal de la Valette et Mazarin parmi les plus empressés, ainsi que Chavigny et le maréchal de Vitry, qui cherchaient à éviter la Bastille, dont il était menacé, disait-on. Deux carrosses suivaient pour les secrétaires du cardinal, ses médecins et son confesseur. 8 voitures à 4 chevaux pour ses gentilshommes et 24 mulets pour ses bagages. 200 mousquetaires à pied l'escortaient de très près. Sa compagnie de gendarmes de la garde et ses chevaux légers, tous gentilshommes, marchaient devant et derrière ce cortège sur de magnifiques chevaux. Ce fut dans cet équipage que le premier ministre se rendit en peu de jours à Perpignan. La dimension de la litière obligea plusieurs fois de faire élargir des chemins et abattre les murailles de quelques villes et villages où elle ne pouvait entrer. En sorte, disent les auteurs des manuscrits du temps, tout plein d'une sincère admiration pour ce luxe, en sorte qu'il semblait un conquérant qui entre par la brèche. Nous avons cherché en vain, avec beaucoup de soin, quelques manuscrits des propriétaires ou habitants des maisons qui s'ouvraient à son passage, où la même admiration fut témoignée, et nous avouons ne l'avoir pu trouver.